Vous écoutez France Culture.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le Gai Savoie.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la réalisation, Luc-Jean Reynaud.
Et à la technique, Michele Maestro. Trois artistes imaginaires, c'est-à-dire plus que vivants, hantent à la recherche du temps perdu. L'écrivain Bergotte, que des lettrés réduisent à Anatole France, le musicien Vinteuil, que de gros malins identifient à Fauré, Reynald de Haan ou César Franck, enfin Elstir, le peintre, que des détectives confondent avec Nicolas de Staël. Tous trois valent mieux pourtant qu'un tel réductionnisme qui abaisse leur auteur au rang d'imitateur et enferme leur talent dans des limites de chair et d'os. Elstir n'est pas Nicolas de Staël, ni Monet, ni Manet, ni Rothko, ni personne, mais tous à la fois, et rien n'est plus beau ni plus réel que les tableaux invisibles dont la recherche du temps perdu nous brosse le portrait.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Écoutez, il faut vraiment que je dise un truc. C'est pas de Bitch qu'on va parler aujourd'hui, mais c'est de Monsieur Biche.
De Monsieur Biche. Monsieur Biche qui s'appelle aussi Monsieur Tiche.
Oui.
Selon les passages, il était mieux connu sous ce nom quand il fréquentait le Salon des Verdurins et que c'était un type un petit peu médiocre, une sorte de mondain, digne des Verdurins. C'était l'époque où il faisait le malin. Et alors c'est une époque dont il a conscience lui-même, Elstir. Il s'en souvient. Il ne la renie pas, cette époque.
Et quand il lit la déception sur le visage du narrateur, c'est intéressant parce qu'au lieu d'en être mécontenté, de s'en vexer, il lui explique qu'il faut en passer par là et que personne, en réalité, ne naît savant, ne naît que la sagesse n'est pas un acquis.
Il n'y a pas d'homme si sage qu'il soit, me dit-il, qui naît à telle époque de sa jeunesse prononcer des paroles ou même mener une vie dont le souvenir lui soit désagréable ou qu'il souhaiterait être aboli. Mais il ne doit pas absolument le regretter, parce qu'il ne peut être assuré d'être devenu un sage, dans la mesure où cela est possible, que s'il a passé par toutes les incarnations ridicules ou odieuses qui doivent précéder cette dernière incarnation-là. Je sais qu'il y a des jeunes gens, fils et petits-fils d'hommes distingués, à qui leurs précepteurs ont enseigné la noblesse de l'esprit et l'élégance morale dès le collège. Ils n'ont peut-être rien à retrancher de leur vie. Ils pourraient publier et signer tout ce qu'ils ont dit, mais ce sont de pauvres esprits descendant sans force de doctrinaires et de qui la sagesse est négative et stérile. On ne reçoit pas la sagesse. Il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner, car elle est un point de vue sur les choses. Les vies que vous admirez, les attitudes que vous trouvez nobles, n'ont pas été disposées par le père de famille ou par le précepteur, elles ont été précédées de débuts bien différents, ayant été influencées par ce qui régnait autour d'elles de mal ou de banalité. Elles représentent un combat et une victoire. Je comprends que l'image de ce que nous avons été dans une période première ne soit plus reconnaissable et soit en tout cas déplaisante. Elle ne doit pas être reniée pourtant, car elle est un témoignage que nous avons vraiment vécu, que c'est selon les lois de la vie et de l'esprit que nous avons, des éléments communs de la vie des ateliers, des coteries artistiques s'il s'agit d'un peintre, extrait quelque chose qui les dépasse.
Et à cet égard...
C'est une des belles leçons d'Elstir au narrateur, ça. Il faut assumer ça, son passé médiocre. Il faut assumer sa médiocrité, parce que rien n'est plus médiocre que de vouloir nier sa médiocrité à la façon de ces gens qui s'inventent des pères ou qui nient leur enfance, qui croient se construire un autre destin en reniant leur enfance.
Mais à cet égard, des trois artistes de la recherche que vous avez cités, si je ne suis pas du tout experte, mais je pense que Elstir est le seul à être vraiment pourvu d'un passé d'une certaine profondeur.
Ah, je ne dirais pas cela dans la mesure où... Alors, nous n'avons, vous avez donc cité les trois artistes, Bergotte l'écrivain, Vinteuil le musicien, Elstir le poète, trois artistes imaginaires et trois artistes dont l'existence est le succès.
Elstir le poète, le peintre.
Ah, j'ai dit le... Pardon.
Mais oui, c'est un...
Excusez-moi. Oui, bien sûr, le peintre. Trois artistes qui sont contemporains du narrateur, donc lui-même imaginaire, et pourtant... Quoi de plus réel que ces trois figures? Bergotte est celui qu'on connaît par la mondanité, le succès qui est le sien. C'est un succès qui n'entame pas le plaisir de la lecture du narrateur quand il est petit et qu'il lit les livres de Bergotte et qu'il a l'impression de pleurer comme dans les bras d'un père retrouvé en lisant certaines pages, tant il voit là ses propres idées couchées sur le papier alors qu'elles ont été écrites avant sa naissance. Vinteuil, il a une fille. Il a une fille et il a déjà composé la petite phrase, puisque la petite phrase de la sonate qui hante et chante toute la recherche du temps perdu se trouve et se fait entendre dès un amour de Swann, c'est-à-dire avant la naissance du narrateur. Et Vinteuil est celui qui... Vinteuil existait avant d'apparaître. Elstir est celui qui fait la paix avec ce qu'il était, c'est-à-dire avec le petit peintre mondain qu'il était. C'est peut-être celui qui apparaît sous le nom du peintre dans les salons Verdurin dans Un amour de Swann. C'est celui qu'on appelle ensuite Tiche ou Biche. Bref, c'est celui qui a un passé. C'est un passé qui est relié directement au narrateur, puisque Elstir est celui qui a fait le portrait d'Odette, future Odette Swann, sous la forme d'un travesti, c'est-à-dire en Miss Sacripant en 1873. Il était vraisemblablement son amant à cette époque, et il est embarrassé pour le coup d'en parler. Mais c'est celui qui a, sur ce passé de mondain, de petit homme, un regard bienveillant et tolérant. Mais vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi il accepte tout ça, au fond ? Pourquoi ça ne le gêne pas ? Parce que dans le salon Verdurin, Paola, la patronne, la Verdurin, Sidonie Verdurin, qui est redoutable, a une manie, vous savez que c'est une entremetteuse, une maquerelle. Donc elle branche Odette et Swann, et puis elle débranche Odette et Swann quand elle trouve que finalement, Forcheville, c'est beaucoup mieux pour Odette que Swann. Parce que Swann, il est toujours entre le ziste et le zeste et on ne sait pas trop quoi faire avec lui. Puis il est un peu inconvenant, et puis il est snob, et puis il va chez les Latrémoille et les Guermantes, etc., etc. Donc finalement, Swann précipite sa disgrâce par les silences qu'on croit qu'il affecte, dont on veut penser qu'il les affecte. Donc Verdurin, elle branche et elle débranche Swann et Odette. Elle débranche Brichot avec sa gourgandine, dont il considère qu'elle n'est pas assez bien pour lui. Brichot sera désespéré d'avoir perdu cette femme. La patronne, d'ailleurs, ne lui saura aucun gré du sacrifice de cette personne, puisqu'elle considère qu'elle lui a fait du bien en le séparant de cette femme qu'elle n'aimait pas. Et elle a essayé de faire pareil avec Elstir. Elle a essayé de séparer Elstir de la femme dont il tombe amoureux. Et figurez-vous que, crime de lèse-majesté, c'est avec les Verdurin qu'Elstir a rompu. De sorte que cet homme, dont les manies, les manières mondaines faisait de lui un élément du cénacle Verdurin, un élément attitré, un type qui avait tous les défauts requis pour appartenir au cercle des Verdurin, eh bien il lui manquait un défaut, c'était la lâcheté. Et il n'a pas cédé à Madame Verdurin. Il est resté amoureux de sa femme. Et il n'a pas cédé à cela. Et elle ne lui pardonnera jamais. Et Madame Verdurin partage avec le duc de Guermantes le sentiment que quand on aime un artiste, c'est qu'on est ami avec lui, et quand on déteste un artiste, c'est qu'on s'est fâché avec lui. Ne pardonnant pas à Elstir cet acte d'indépendance, ne cessera ensuite de dénigrer tous les tableaux qu'Elstir peindra après avoir quitté le petit cercle, tout en, au contraire, célébrant la beauté des tableaux qu'il peignait pendant qu'il venait aux réunions du mercredi soir.
Alors, avant de franchir la porte de l'atelier d'Elstir, il y a une série de pages où le narrateur n'a pas vraiment connaissance des peintures d'Elstir. Et il le connaît par rapport à le fait que Swann l'ait mentionné quelquefois. Et puis, c'est drôle parce que ça donne lieu à des analogies entre, par exemple, l'écrivain préféré de Bathilde, la grand-mère du narrateur, qui est Madame de Sévigné, Elstir et Dostoïevski.
Oui, mais alors, je ne suis pas sûr que cette comparaison du narrateur soit l'effet de son ignorance. Parce que, justement, que dit-il ? Quel est le point commun entre Madame de Sévigné, Dostoïevski et Elstir ? Écoutez le texte, écoutez ce qu'il dit. Madame de Sévigné est une grande artiste de la même famille qu'un peintre que j'allais rencontrer à Balbec et qui eut une influence si profonde sur ma vision des choses, Elstir. Je me rendis compte à Balbec que c'est de la même façon que lui qu'elle nous présente les choses dans l'ordre de nos perceptions au lieu de les expliquer d'abord par leur cause. Et ça, c'est une thèse à laquelle le narrateur ne renonce jamais, Paola. Quand bien même il accède à la connaissance d'Elstir, même quand il accède à la connaissance des tableaux d'Elstir. Pourquoi ? Parce que la thèse dit « Elstir nous présente les choses par les effets, par les impressions et non par les causes ». Elstir, c'est un peintre montagnien, de montagne. Il court aux causes et laisse les choses, plaisant causeur. Montaigne se moque des gens qui cherchent les causes aux dépens des impressions. Il en parle comme des causeurs, justement. Il les réduit à des causeurs. Les gens qui cherchent les causes sont des gens qui causent, précisément. C'est-à-dire sont des gens qui blablatent. Or, Elstir, comme Madame de Sévigné, comme Dostoïevski, ils vont directement au fait. Ils n'y vont pas par quatre chemins, ils ne tournent pas autour du pot. J'emploie ici à dessein des expressions ordinaires, les expressions qu'emploie Madame Verdurin et qui fascinent le docteur Cottard. Elle le fascine par son aptitude justement à enfiler les perles. Donc ils n'y vont pas par quatre chemins, ils ne coupent pas les cheveux en quatre, ils vont directement au fait. Et le fait, c'est les effets. Les effets avant la cause. L'effort d'Elstir, dit le narrateur, de ne pas exposer les choses telles qu'il savait qu'elles étaient, mais selon ces illusions optiques dont notre vision première est faite, l'avait précisément amené à mettre en lumière certaines de ces lois de perspective, plus frappantes alors, car l'art était le premier à les dévoiler. Au contraire, ça c'est une thèse qu'il n'abjure jamais, c'est une thèse qu'il n'abandonne jamais. Le génie d'Elstir, il a le réel pour but, il a le réel pour Graal, c'est-à-dire le monde tel qu'il est quand on n'en a pas besoin. Mais ce monde-là, le monde mobile, le monde rendu à sa mobilité, le monde que notre besoin découpe ordinairement et qu'il faut rendre à sa mobilité native, ce monde-là ne nous est accessible qu'en passant par le filtre de nos impressions. Toute la recherche du temps perdu, c'est une éducation de la subjectivité. Il faut apprendre au sujet à ne pas être un sujet tout puissant, mais à être l'humble sujet satisfait de ses impressions ou content de ses impressions. Au sujet cartésien, au fond, c'est-à-dire au sujet qui prétend découper le monde selon les besoins de sa vénération ou bien de son utilité, le narrateur substitue l'humble sujet qui s'attache à ses impressions et comprend que le chemin de l'impression est paradoxalement le plus court pour renouer avec le réel lui-même. Et Elstir fait partie de ces éducateurs du regard, et au premier degré, et au premier rang. Il est de cela. Donc la peinture d'Elstir, au contraire, est une peinture dont le génie propre, c'est d'en passer par la racine, d'en revenir, comme il dit, à la racine même de l'impression. Il faut en revenir à la racine même de l'impression. La connaissance est à ce prix, la vraie connaissance, c'est-à-dire la sensation qui n'est pas une sensation qui n'est pas découpée, comment dire, qui n'est pas amoindrie par la subjectivité. On dit souvent, si vous vous en tenez à vos sensations, vous n'allez rien percevoir du monde, vous n'allez percevoir du monde que ce que vous en percevez, c'est-à-dire pas grand-chose. Et le pari de Proust, le pari proustien, c'est de considérer que la sensation n'est pas un amoindrissement de nos perceptions, c'est au contraire la voie royale de découverte du monde séparément de soi. Et Elstir est un éducateur à cet égard, comme l'est Dostoïevski, comme l'est Madame de Sévigné, et l'influence de Madame de Sévigné, comme de Dostoïevski, sur le style proustien, dans la part qu'il fait justement aux sensations, au fait qu'au lieu de dire « le soleil se lève », il parle de « l'œuf d'or du soleil », qu'une rupture de densité au moment de la coagulation amène à crever d'un bond le rideau derrière lequel on le sent frémissant. Cette aptitude qu'il a à décrire les choses par leurs sensations est la meilleure façon qu'il a trouvée de les saisir et de les sentir.
D'accord, mais tout de même, il y a quand même un moment qui est assez drôle pour le coup. Puisque je parlais tout à l'heure d'ignorance d'Elstir, c'est quand même la fois où il l'a jamais vu vraiment Elstir. Et puis il est dans un restaurant à Balbec, et on lui dit que l'homme là-bas est un artiste très connu, que c'est Elstir, que des Anglaises viennent pour savoir, etc. Et il est pris d'un enthousiasme sans limite, et il veut à tout prix qu'Elstir soit au courant que Robert de Saint-Loup et lui-même sont de grands admirateurs de son œuvre, etc., alors qu'ils n'ont jamais vu un seul tableau d'Elstir. Oui, c'est hilarant.
C'est hilarant, c'est ce qui arrive aux gens un peu connus. Vous croisez quelqu'un d'un peu connu dans la rue et vous lui dites « je peux avoir un autographe, je peux avoir une photo ?» Alors la personne un peu connue se prête au jeu, et puis après on dit « au fait, vous êtes qui ?» vous êtes qui ? Mais vous ressemblez à quelqu'un. C'est bizarre. Vous savez, il y a comme ça dans la notoriété une sorte de zone grise, de zone intermédiaire où vous n'êtes pas Jean-Paul Belmondo, vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'êtes pas clairement identifiable, mais vous n'êtes pas non plus tout à fait anonyme. On vous voit et on se dit qu'on vous a déjà vu quelque part. Et dans le doute, on demande une photo, on demande un autographe, on demande quelque chose en espérant qu'un peu de votre sève ou de votre sueur, qui si ça se trouve a passé le filtre télévisuel, donc si ça se trouve vous avez fréquenté l'Olympe, eh bien un peu de cela vous passera vers l'autre. Enfin, on ne sait pas trop si vous êtes précieux ou pas, mais dans le doute, on vous demande ce renseignement. Voilà. Et alors, Elstir est dans cette position vis-à-vis du narrateur et de Saint-Loup, parce que le narrateur s'était laissé dire par Swann que Elstir était... Enfin, non, voici la phrase. « Swann avait une fois prononcé son nom devant moi. J'avais entièrement oublié à quel propos. Mais l'omission d'un souvenir, comme celui d'un membre de phrase dans une lecture, favorise parfois non l'incertitude, mais l'éclosion d'une certitude prématurée. C'est un ami de Swann et un artiste très connu, de grande valeur, dis-je à Saint-Loup. Le soupçon d'une réminiscence, l'idée que peut-être on lui en a parlé, lui fait dire « attention, attention, nous sommes en présence de quelque chose d'extraordinairement important ou de quelqu'un d'extraordinairement important. » Et un peu plus loin, il dit « c'était tout au plus de l'admiration à vide, le cadre nerveux, l'armature sentimentale d'une admiration sans contenu, c'est-à-dire quelque chose d'aussi indissolublement attaché à l'enfance que certains organes qui n'existent plus chez l'homme adulte. Nous étions encore des enfants. » C'est génial, hein ? C'est génial parce qu'on comprend très bien comment il peut s'intéresser à Elstir sur le fondement d'un malentendu. Si ça se trouve, il est connu. Dans le doute, on va lui demander de nous recevoir. On va lui, voilà.
Mais c'est au terme de cette rencontre qu'il va réussir à obtenir d'Elstir une invitation, lui et pas Saint-Loup, hein, quand même, il précise, à visiter le laboratoire, comme vous disiez, ou l'atelier plus simplement d'Elstir.
Alors, c'est très important que ce soit le narrateur et non Saint-Loup qu'Elstir invite dans son atelier, parce que Saint-Loup est un type admirable. Qui est un ami, c'est un guermand de Saint-Loup. C'est le meilleur ami du narrateur, c'est avec lui qu'il fait un peu les 400 coups. Bon, ça va pas très loin, mais Saint-Loup, il a deux défauts. Le premier, c'est que il croit à la valeur esthétique des choses intelligentes. C'est quelqu'un qui croit que ce qui est intelligent est précieux. C'est quelqu'un qui, au fond, il fait de la théorie, Saint-Loup. Il croit que la compagnie des gens intelligents est plus intéressante que la compagnie des gens bêtes. Il a ce défaut en partage avec Madame Verdurin, avec Madame de Cambremer, c'est-à-dire avec tous les cons qui considèrent que l'intelligence est une fin en soi et que l'intelligence est de meilleure compagnie que la bêtise. Alors que du point de vue d'un artiste qui, justement, élève d'Elstir, sait s'en tenir aux impressions que le monde dépose en lui, les gens, les sociétés inintellectuelles et joyeuses ont au moins autant de prix, de valeur et de puissance esthétique qu'un univers d'intelligence extrême. Ce qui compte, c'est l'impression. Et dans un monde où c'est l'impression qui compte, l'intelligence n'a aucun intérêt. D'ailleurs, le narrateur n'arrête pas de remarquer l'intelligence d'Albertine tout en disant qu'il s'en fiche complètement. L'intelligence d'Albertine ne l'intéresse pas. C'est son corps qui l'intéresse. Ce sont ses mimiques. C'est sa façon de mentir qui l'intéresse. Son intelligence, il s'en fout complètement. Ce n'est pas du tout son problème. D'abord parce que, dit-il, l'intelligence chez les femmes ne l'intéresse pas, mais aussi parce que, en soi, l'intelligence n'est pas un but en soi. Ce n'est pas intéressant. Et le deuxième défaut de Saint-Loup, c'est que, comme dit le narrateur, Saint-Loup aimait à plaire, Elstir aimait à donner. Et de sorte que, dans l'entrevue, puisque Elstir, donc, il est au restaurant, le narrateur et Saint-Loup lui envoient un mot, Elstir lit le mot devant eux, ne se tourne pas vers eux, puis vient les voir. Et au terme de la conversation, il invite le narrateur à venir dans son atelier, il n'invite pas Saint-Loup. Et c'est une façon pour le narrateur de se distinguer de son ami, tout simplement. De le faire sans fatuité, sans vanité aucune, mais juste de montrer qu'il n'est pas ici dans la... Assez vite, il sort du registre mondain. Il sort du monde, du petit monde du monde des mondains, pour entrer dans le monde, c'est-à-dire dans la réalité. Et la réalité, c'est ce qu'il a en partage avec Elstir et c'est ce qu'il découvre quand il visite son atelier.
Et l'atelier d'Elstir m'a paru comme le laboratoire d'une sorte de nouvelle création du monde, où du chaos que sont toutes choses que nous voyons, il avait tiré, en les peignant sur divers rectangles de toile qui étaient posés dans tous les sens, ici, une vague de la mer écrasant avec colère sur le sable son écume lilas, là, un jeune homme en coutil blanc accoudé sur le pont d'un bateau. Le veston du jeune homme et la vague éclaboussante avaient pris une dignité nouvelle du fait qu'il continuait à être, encore que dépourvu de ce en quoi il passait pour consister, la vague ne pouvant plus mouiller, ni le veston habiller personne. Au moment où j'entrais, le créateur était en train d'achever, avec le pinceau qu'il tenait dans sa main, la forme du soleil à son coucher. Les stores étaient clos de presque tous les côtés, L'atelier était assez frais, et sauf à un endroit où le grand jour a posé au mur sa décoration éclatante et passagère, obscure. Seule était ouverte une petite fenêtre rectangulaire, encadrée de chèvrefeuilles, qui, après une bande de jardin, donnait sur une avenue. De sorte que l'atmosphère de la plus grande partie de l'atelier était sombre, transparente et compacte dans la masse, mais humide et brillante aux cassures où la sertissait la lumière, comme un bloc de cristal de roche dont une face déjà taillée et polie, ça et là, luit comme un miroir et cirise. Tandis qu'Elstir, sur ma prière, continuait à peindre, je circulais dans ce clair-obscur, m'arrêtant devant un tableau, puis devant un autre. Le plus grand nombre de ceux qui m'entouraient n'étaient pas ce que j'aurais le plus aimé avoir de lui, les peintures appartenant à ses premières et deuxièmes manières, comme disait une revue d'art anglaise qui traînait sur la table du salon du Grand Hôtel, la manière mythologique et celle où il avait subi l'influence du Japon, toutes deux admirablement représentées, disait-on, dans la collection de Madame de Guermantes. Naturellement, ce qu'il y avait dans son atelier, ce n'était guère que des marines prises ici, à Balbec. Mais j'y pouvais discerner que le charme de chacune consistait en une sorte de métamorphose des choses représentées, analogue à celle qu'en poésie on nomme métaphore, et que si Dieu le Père avait créé les choses en les nommant, c'est en leur ôtant leur nom ou en leur en donnant un autre qu'Elstir les recréait. Les noms qui désignent les choses répondent toujours à une notion de l'intelligence, étrangère à nos impressions véritables, et qui nous force à éliminer d'elles tout ce qui ne se rapporte pas à cette notion. Alors, nous voilà de plein pied, si je puis dire, dans l'atelier d'Elstir. C'est assez impressionnant. J'avoue que je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Il y a beaucoup de choses. En fait, on est un peu submergé comme un petit peu toutes ces...
C'est la création du monde, Paola. Oui. C'est la création du monde.
Évidemment, et puis il y a le mot prière, il y a le Dieu le Père.
C'est Dieu, Elstir. Ouais. Ce personnage, ce mondain, Monsieur Tiche, Biche, ce petit bonhomme qui faisait le malin chez les Verdurin, ce peintre dont on ne sait pas trop s'il est célèbre ou pas encore, ou qui le sera, enfin bon. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est le Dieu de la recherche. Et dans ce grand livre... où il n'est question ni de... Enfin, où il n'est jamais question de Dieu, au fond. Sinon d'un Dieu pour enfants, ou alors d'un Dieu de salon. Vous savez, mon Dieu que les domestiques sont bêtes, quoi. C'est un Dieu d'expression. Dans ce grand livre, où il est quand même question de croyances, de prêtres, de villes maudites, ou bien de la forme des clochers, il y a un dieu, et ce dieu, c'est Elstir. Et son atelier, c'est la création du monde. Et c'est le dieu de la recherche. C'est vraiment le dieu. Alors, c'est un dieu particulier. C'est un dieu tout à fait singulier, Paola, dites-moi.
Mais tout de même, si c'est un dieu, c'est un dieu qui, parfois, à certains moments, est replacé un petit peu juste au rôle d'intermédiaire, par exemple. Là, dans la situation dans laquelle on est, et qu'on ne sent pas juste dans le passage qu'on a sélectionné, mais quand même, le narrateur, s'il est dans la maison de Dieu, il a vite envie d'en sortir, hein, quand même, parce que ce qu'il attend, c'est que Elstir ait posé le dernier coup de pinceau pour qu'il puisse retourner sur la digue en espérant croiser les jeunes filles.
Attention, il est déçu d'aller chez Elstir. Enfin, il n'est pas content d'aller chez Elstir. Il y va parce que sa grand-mère lui dit d'y aller, parce qu'elle trouve prestigieux et intéressant pour lui, parce que sa grand-mère, elle aussi, elle considère que la compagnie des gens intelligents, c'est bien. Vous savez, la grand-mère, elle est stakhanoviste culturelle. Elle fait partie de ces gens, vous savez, qui quand ils vont dans une ville, font tous les musées de la ville. C'est bon, la culture. Elle est pour la culture. Elle fait du culturel, la grand-mère. Elle est merveilleuse, hein, par ailleurs, mais c'est pas ça qu'elle a de merveilleux. Ça c'est plutôt ce qu'il y a de désagréable. La grand-mère, c'est quelqu'un qui ne peut pas se résoudre à arriver tout bêtement quelque part. Elle a toujours besoin d'en passer par tel ou tel monument, telle ou telle cathédrale, tel ou tel truc, faire un saut par tel endroit culturellement, officiellement, culturellement intéressant. Donc elle a besoin de sa dose d'intéressant. Et du coup, elle est enchantée que le narrateur soit convié à aller dans cette maison somptueusement laide, où se trouve l'atelier d'Elstir, donc pas loin de Balbec. Et donc le narrateur y va. Mais lui n'y est pas content, il s'y rend de mauvaise grâce parce qu'il peste contre une visite qui le prive d'épier les jeunes filles en fleurs au détour des dunes, Albertine, Rosemonde, Gilberte. Il ne peut plus les regarder, il ne peut plus les voir. Lui, il avait prévu quoi ? De mettre sa plus belle cravate et de se planquer derrière les dunes pour observer ces jeunes filles dont la silhouette évanescente dessinait comme des lettres de l'alphabet sur le fond bleu de l'horizon. C'était ça son bonheur, c'est ça son plaisir, et de se masturber probablement en les regardant dessiner ainsi des lettres de l'alphabet sur le fond bleu de l'horizon, le bleu céruléen de l'horizon. C'était ça son bonheur, et le voilà contraint d'aller rendre une visite à un peintre, qui est connu, mais ça lui fait ni chaud ni froid. Or, quand il entre, il a quand même une révélation. Il voit la lumière, plus exactement, il voit la lueur. Ce n'est pas la lumière qu'il voit, c'est le clair-obscur. Parce que j'ai dit que c'était Dieu. Vous avez dit que c'est un intermédiaire. Et en fait, c'est un démiurge. Quelle est la différence entre le Dieu et le démiurge ? Le démiurge, c'est un Dieu qui a une matière première sous la main. Donc c'est un démiurge. Il a la matière première du pinceau, du chevalet, de la peinture et de la toile. Il a la matière première du réel. Il est l'interprète du réel. Il est, comme Fraenhofer, celui qui exprime la nature et qui ne l'imite pas. Et on verra de quelle manière. Mais c'est Dieu.
Et c'est un Dieu aussi qui ne s'est pas retiré du monde après sa création. Enfin,
c'est un Dieu immanent. C'est un Dieu immanent à tous égards. Alors, il y a le lexique de la théologie, le laboratoire d'une nouvelle création du monde. Nouvelle création du monde, qu'est-ce qu'il vous faut ? C'est la Bible, c'est le début. Il y a le fait que c'est sur la prière du narrateur que le créateur achève un soleil à son coucher. C'est quand même incroyable. Il y a tout le lexique théologique, mais c'est un lexique théologique qui ne doit pas nous induire en erreur, car la divinité d'Elstir ne lui vient pas de cette création ex nihilo qu'on attribue au Dieu. Disons, vous savez, il y a deux interprétations de la Genèse dans la Bible. Il y a une interprétation, il y a une version totalement radicale de la Genèse où c'est à partir de rien ou à partir du néant que le monde fut. Que le monde a été créé. Et dans le texte de la Genèse, il y a un moment où c'est sur le fond d'une matière première, déjà là, que Dieu pétrit le monde. Donc il y a deux modalités de la Genèse. C'est à la deuxième que Elstir emprunte son génie propre. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un Dieu qui compose, qui réarrange l'univers, plus qu'il ne le fait jaillir à partir de rien. Mais du coup, c'est un Dieu qui n'entreprend pas de réduire, comme on chercherait la vérité, une impression en ses éléments objectifs. Non, c'est un Dieu dostoïevskien. C'est un Dieu qui s'attache à rendre clair, dit-il, les sensations jusque dans leur profondeur. C'est un Dieu qui dépouille le monde de tout ce qui rassure et qui par conséquent permet d'y vivre. C'est un Dieu qui dépouille le monde de sa fonction, de ses fonctions. Par exemple, il dit: le veston du jeune homme et la vague éclaboussante avaient pris une dignité nouvelle du fait qu'il continuait à être, encore que dépourvu de ce en quoi il passait pour consister, la vague ne pouvant plus mouiller, ni le veston habiller personne. Quand Elstir peint une vague, quand Elstir peint un veston, il ne peint pas une vague, il ne peint pas un veston. Il peint des choses que notre esprit de synthèse et notre manie de nous approprier le monde et de le forger et de le faire à notre mesure, de l'adapter à nos besoins, il peint des choses que notre manie d'adapter le monde à nos besoins a transformé en objets, certis ou, lestés d'une fonction. Eh bien, il défonctionnalise, il désustensilise les choses.
Il dénomme les choses.
Et du coup, voilà, il les dénomme. C'est un Dieu qui ne nomme pas, mais qui dénomme. C'est le dénommateur, c'est celui qui enlève leur nom aux choses, ce qu'il montre n'a plus de nom. C'est littéralement innommable ou indicible. Ça ne se dit pas, ça ne peut plus se dire, ça ne peut que se sentir. C'est un Dieu qui se débarrasse par des effets de lumière, par le fait que la lumière chez lui ne dissipe pas l'ombre, mais au contraire affirme l'ombre. C'est un Dieu qui débarrasse le regard de toute intention et qui nous rend le monde, qui rend le monde à lui-même, c'est-à-dire qui offre le monde à nos yeux, littéralement. Et Proust, le narrateur, ne fait pas autre chose qu'en lui-même, personnage à la fois existant, central et fantomatique de la recherche, regarde des paysages sans jamais altérer le paysage qu'il regarde de sa propre présence. C'est derrière un œil de bœuf qui voit Charlus se faire fouetter. C'est bien caché par des volets qu'il voit Charlus et Jupien se faire la cour. Ce que le narrateur regarde, ou qu'il voit la petite Vinteuil et sa bonne amie se faire des câlins. Ce qu'il regarde n'est jamais altéré par le fait qu'il le regarde. Et donc il a accès au monde séparément de lui et pourtant il le regarde. Et ce monde-là, c'est ce qu'Elstir montre. Et c'est intéressant parce que, vous savez, on a parlé de Frenhofer, du chef-d'œuvre inconnu. Et il y a un passage qu'on n'a pas cité, dans lequel Frenhofer, disant que l'ombre n'est qu'un accident, expliquant que son travail consiste à rendre les ombres les plus vigoureuses, continue en expliquant que, chez lui, la blancheur se révèle sous l'opacité de l'ombre la plus soutenue. Or, que fait Elstir ici? De quoi l'atelier est-il fait? Écoutez Proust, l'atmosphère de la plus grande partie de l'atelier était sombre, transparente et compacte dans la masse, mais humide et brillante aux cassures où la sertissait la lumière, comme un bloc de cristal de roche dont une face déjà taillée et polie ça et là, lui comme un miroir et s'irise. C'est soulage. L'un comme l'autre. C'est soulage. C'est soulage qui capte la lumière avec du noir. Qui met à la lumière, qui offre à la lumière son plus beau noir. C'est soulage. Dans les deux cas, ils ont ça en commun. Je crois que, à ce que la peinture de soulage laisse perplexe, ceux qui, de bonne foi, parfois disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On met du noir sur une toile, moi aussi je peux le faire. » Ceux qui ont cette réaction, qu'il faut prendre au sérieux, parce qu'elle est redoutable. Elle est redoutable au sens où elle est pertinente. Devant un tableau de soulage, ceux-là doivent avoir en tête, ou peut-être gagneraient à lire, le chef-d'œuvre inconnu, ça fait 15 pages, c'est pas fatigant, et la découverte de l'atelier d'Elstir dans la recherche du temps perdu, dans l'ombre des jeunes filles en fleurs, parce que l'un comme l'autre montre à quel point le plus court chemin vers la lumière, c'est le noir. Et l'un comme l'autre montre ça. Et ça commence par le constat que la vraie lumière ne dissipe pas les ombres, mais au contraire les révèle, les exalte. Et c'est raison pour laquelle le mot qui compte ici, c'est le clair-obscur. Raison pour laquelle aussi Elstir est un dieu qui dénomme, qui enlève leur nom aux choses. Si Dieu le Père avait créé les choses en les nommant, c'est en leur ôtant leur nom ou en leur en donnant un autre qu'Elstir les recréait. Et là, on touche de l'œil quelque chose de fondamental dans le travail de l'artiste. Et on peut comprendre en quoi d'ailleurs le travail d'Elstir est essentiel au travail du narrateur lui-même.
Et lorsque... ça fait partie de la recréation, quand il dit qu'en somme, ça consiste en métamorphose, de la même manière qu'en poésie, c'est en métaphore. Et plus loin, il ajoute que la métamorphose la plus courante, c'est de transformer la mer en ciel et le ciel en mer. Et on peut se demander qu'est-ce que ça a de si étonnant, de si mystérieux que cette inversion, somme toute assez... à partir du moment où on connaît les peinture des impressionnistes, ça nous semble assez courant, non?
C'est intéressant que vous fassiez une faute de liaison à l'instant où vous décrivez justement la métaphore comme un principe de liaison entre éléments étonnants.
Et laquelle ai-je donc faite?
Si étonnant. C'est si étonnant. Vous avez mis un Z après le si pour qualifier justement le basculement de la terre à la mer ou de la mer à la terre. Vous avez introduit, pardonnez-moi Paola, une liaison là où il ne fallait pas en mettre une parce que c'est ce que fait Elstir. Parce que votre inconscient est structuré comme un langage. C'est ce que fait Elstir. Vous avez mis de la liaison là où il n'y en a pas. Là où un regard partitif, cartésien, découpe l'espace, le scinde en éléments différenciés. Vous avez introduit une liaison là où, en général, nous n'en voyons pas. Or, Elstir en voit une. Et il y a deux façons de comprendre ce que vous dites et ce que vous décrivez très justement dans le travail d'Elstir. Le travail d'Elstir, c'est à la fois, on peut le comprendre à la fois de façon ovidéenne, c'est-à-dire à la façon d'Ovid, les métamorphoses d'Ovid, où après un tsunami, vous avez un poisson qui se trouve en haut d'un arbre, vous avez une ville qui se trouve au milieu de l'océan, vous avez tout est mêlé, tout est mélangé, on ne sait plus trop où on est, tout est fondu. On est dans des métamorphoses. Or, ces métamorphoses sont également des métaphores. Parce que une métaphore adjoint deux éléments qui n'ont pas lieu de fonctionner ensemble, mais dont le mélange produit, un peu comme de l'aigre doux peut produire un délice, si vous voulez, dont le mélange produit une réalité absolument singulière, absolument nouvelle, et dont la nouveauté tient justement à la dose de réalité qu'elle comporte. Plus les choses sont réelles, plus elles sont neuves. Plus les choses sont rendues à leur ingénuité native, plus elles sont neuves. Donc ça, c'est une première façon de faire. Et effectivement, pour Elstir, cet homme qui, encore une fois, en revient à la racine même de l'impression, n'expose pas les choses telles qu'elles sont, mais selon les illusions optiques que composent nos premières impressions, Elstir, c'est-à-dire Whistler sans H ni W, Elstir est celui qui mélange le réel, c'est un mot savant, c'est un mot de Bergson, anastomose les éléments entre eux, les éléments de la réalité entre eux. Bon. Mais on peut l'entendre aussi autrement. On peut aussi entendre chez Elstir une ambition qui est peut-être supérieure à cela, qui est la suppression de toute démarcation. Et là, il faut inviter nos auditeurs à se plonger là encore dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac et la figure de Fraenhofer. Dans le chef-d'œuvre inconnu, l'un des moments, vous savez, souvenez-vous, on a parlé du dessin, du trait. Et au fond, le trait, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi parce que c'est celui qui sépare la couleur d'elle-même. C'est l'ennemi, c'est une fausse vision du monde, une vision partitive du réel, encore une fois, découpe le réel, découpe l'espace. Or, l'espace n'est pas à découper. Donc il faut abolir le trait, il faut remplacer le trait par la couleur, ce qui, chez Fraenhofer, produit une catastrophe, puisqu'à la fin, son tableau, c'est un désastre. Parce qu'il n'y a plus de trait. Il n'a pas les moyens de peindre sans trait. Et c'est sa limite, justement, l'absence de trait. Et Elstir, lui-même, supprime ces discontinuités imaginaires, cette pulsion partitive qui fait qu'on sépare le monde de lui-même. Vous savez ce que c'est, Elstir ? C'est comme un tableau de Rothko. En quoi ? Au sens où le tableau de Rothko décrit le passage insensible et pourtant spectaculaire d'un état à un autre. C'est-à-dire qu'on est dans un basculement insensible d'une couleur à l'autre. Je prends les tableaux bicolores, entre guillemets, de Rothko. Et pourtant, ce passage est à la fois insensible et saute aux yeux. Alors, vu de loin, on regarde un tableau de Rothko, on se dit, là, il y a du blanc, là, il y a de l'orange. Puis, il y a deux trucs. Et quand on s'approche, on s'aperçoit que l'insensibilité du passage vient paradoxalement contrarier le sentiment qu'il y a un saut qualitatif entre les deux. C'est le mystère d'un passage qui est exprimé dans les tableaux de Rothko et dont la peinture d'Elstir que la peinture d'Elstir porte à son sommet. Écoutez ça. Une de ses métaphores les plus fréquentes, dans les marines qu'il avait près de lui en ce moment, était justement celle qui, comparant la terre à la mer, supprimait entre elles toute démarcation. Ça, c'est Whistler.
Mais vous prenez Whistler, vous prenez Rothko comme exemple, donc des exemples assez modernes, mais est-ce que, par exemple, un peintre comme Le Greco n'a pas déjà réalisé cette absence de démarcation ? Par exemple, quand on a l'impression que l'étoffe des corps, l'étoffe des tissus est déjà la même que celle du ciel, c'est une sorte de... On voit le passage du ciel au corps, quelque chose comme ça.
Écoutez ça. Soit que les maisons cachassent une partie du port, un bassin de calfatage, ou peut-être la mer même s'enfonçant en golfe dans les terres, ainsi que cela arrivait constamment dans ce pays de Balbec, de l'autre côté de la pointe avancée où était construite la ville, les toits étaient dépassés, comme ils l'eussent été par des cheminées ou par des clochers, par des mâts. Lesquels avaient l'air de faire des vaisseaux auxquels ils appartenaient quelque chose de citadin, de construit sur terre. Impression qu'augmentaient d'autres bateaux, demeuraient le long de la jetée, mais en rang si pressé que les hommes y causaient d'un bâtiment à l'autre sans qu'on pût distinguer leur séparation et l'interstice de l'eau. Et ainsi cette flottille de pêche avait moins l'air d'appartenir à la mer que, par exemple, les églises de Kriegbeck qui, au loin, entourées d'eau de tous côtés parce qu'on les voyait sans la ville, dans un poudroiement de soleil et de vagues, semblaient sortir des eaux, soufflées en albâtre ou en écume et, enfermées dans la ceinture d'un arc-en-ciel versicolore, formaient un tableau irréel et mystique.
Ce que vous avez lu, en fait, c'est en même temps la réussite simultanée de la peinture irréelle d'Elstir et de la littérature.
Oui, oui. Ben, c'est quand même, tout ça est quand même un triomphe de la littérature, parce qu'il faut quand même rappeler que ces tableaux n'existent pas.
Tout à fait.
Ces tableaux n'existent pas. Ces tableaux sont des compositions. Ce sont des compositions littéraires. Ces tableaux n'existent pas. La musique de Vinteuil n'existe pas. Les œuvres de Bergotte n'existent pas. On ne les connaît que par leurs effets. C'est comme Neptune. On a découvert sa présence par les effets induits par sa gravité sur les astres environnants. Rien de tout cela n'existe. C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. On n'exprime pas mieux l'existence qu'en empruntant les détours de l'imaginaire. C'est les fondements imaginaires de la réalité que la littérature révèle. On est au cœur de la recherche du temps perdu avec ça. En entrant dans l'atelier d'Elstir, c'est dans le réel même que l'on entre. C'est dans ce monde. Et l'on comprend ici l'importance qu'il y a à s'en tenir à la racine même de l'impression. Et la somme de culture qu'il faut pour renouer avec la racine même de l'impression. Elstir est un homme très cultivé. C'est celui qui explique au narrateur pourquoi l'église de Balbec est belle et pourquoi il faut savoir parfois pour voir. Cette église qui fait penser à une petite vieille dont on peut compter les rides, qui déçoit beaucoup le narrateur parce qu'il imaginait une sorte de mosquée de style persan et qui tombe sur un truc un peu moche. La façon qu'a Elstir de raconter cette église... Cette plus belle Bible historiée que le peuple ait jamais pu lire, etc. Tout cela témoigne de sa grande culture. Cette grande culture d'Elstir, c'est ce qui permet justement d'en revenir à l'ingénuité. La véritable connaissance, elle est ingénue. L'érudition d'Elstir, qui n'est pas une fuite loin de sa propre vie, culmine dans un regard candide et dans un monde sans simagrée, c'est-à-dire un tableau. Un tableau, l'autre nom d'une réalité qui se prend pour un rêve.
Au début de l'émission, je faisais référence à Elstir comme intermédiaire. Le mot est dans le texte de Proust lui-même. Et je pensais par exemple au fait que c'est Elstir qui dit le nom d'Albertine au narrateur, qui lui dit qu'elle s'appelle Albertine Simonet.
Ah, vous avez dit intermédiaire, mais vous pensiez entremetteur.
Oh, c'est un peu la même chose quand même.
Pas
tout à fait, mais bon.
Pas tout à fait. Vous avez tout à fait raison, cela dit. C'est quand même incroyable parce que c'est le grand dénommateur, c'est celui qui enlève leur nom aux choses, puisqu'il les dépouille de leurs fonctions pour nous les donner à sentir, qui nomme Albertine. Et il nomme Albertine, Albertine Simonet.
Avec un seul N.
Une seule N, pour faire le cuistre jusqu'au bout, hein, c'est une seule N, puisque vous savez que les consonnes qui commencent par une voyelle sont féminines, Paola.
Non, je ne savais pas.
Eh bien, je vous l'apprends. Une seule N, donc. Albertine Simonet. Le nom Simonet n'est pas innocent ici. D'ailleurs, Albertine a un goût très sûr en vêtements et en peinture, mais exécrable en musique. Que fait Monet ? Que peint Monet ? C'est-à-dire le peintre auquel Albertine emprunte son nom. Le peintre auquel Albertine emprunte son nom par la bouche d'Elstir.
Les jeunes filles ?
Certes, mais il peint aussi des cathédrales, des peupliers, des meules, vues sous différents angles. Il allait même jusqu'à payer les gens qui devaient découper les peupliers ou couper les peupliers justement pour qu'ils les maintiennent encore un peu, pour que tels les clochers du Diménil, il pût les peindre. Que peint Monet ? Les altérations du réel sous les effets de la lumière. Les différents points de vue que la lumière permet d'avoir sur le même objet. Monet est exactement au cœur de ce travail qui consiste par les jeux de lumière, non pas à présenter les différentes réfractions comme autant de points de vue sur un objet, mais comme autant de réalités. Il est celui qui fait ce travail-là. Et c'est intéressant parce que à côté de Monet, autre point commun avec le chef-d'œuvre inconnu, à côté de Monet, Poussin semble à Madame de Cambremer le plus barbifiant des raseurs. C'est l'expression qu'elle emploie. Elle dit « Monet, Manet ». Vous savez, c'est ce moment où Madame de Cambremer met autant de soin à renseigner le narrateur sur les évolutions de son goût, parce qu'elle considère que c'est très important. Albertine, Simonet. Et Albertine, c'est celle qui peint. C'est celle qui, en peignant, essaie d'imiter dans le geste du peintre le noble rythme qui faisait qu'Elstir parvenait à peindre ce qu'il peignait. Elle essaie d'avoir la geste d'Elstir quand elle peint. Albertine est une créature d'Elstir. C'est grâce à Elstir qu'elle apparaît. C'est Elstir qui la présente au narrateur. C'est Elstir qui ne la présente pas au narrateur. C'est Elstir qui la nomme. Et le nom qu'il lui donne, c'est le nom du peintre qui fait le même travail qu'Elstir. Enfin, Albertine, c'est l'être pictural par excellence. C'est celui dont le narrateur, c'est celui ou celle... Mais bon lapsus, dont le narrateur fait le plus souvent le portrait.
Oui, et qui apparaît...
Et sous tous ses angles.
Voilà, et qui apparaît à chaque fois différente, et il n'est jamais sûr que la première, ou plutôt pas la première, la plus belle vision qu'il a eue d'Albertine, Albertine avec son polo noir, suivant son anglaise, comme ça, avec sa bicyclette, et il n'est jamais sûr de revoir une fois cette Albertine-là, puisqu'elle donne lieu à plein d'Albertines.
Écoutez ça, que connaissais-je d'Albertine ? Un ou deux profils sur la mer. Moins beaux, assurément, que ceux des femmes de Véronèse, que j'aurais dû, si j'avais obéi à des raisons purement esthétiques, lui préférer. Or, pouvais-je, en d'autres raisons, puisque l'anxiété tombée, je ne pouvais retrouver que ces profils muets, je ne possédais rien d'autre. Depuis que j'avais vu Albertine, j'avais fait chaque jour à son sujet des milliers de réflexions. J'avais poursuivi, avec ce que j'appelais « elle », tout un entretien intérieur, où je la faisais questionner, répondre, penser, agir, et dans la série indéfinie d'Albertines imaginées, qui se succédait en moi heure par heure, l'Albertine réelle, aperçue sur la plage, ne figurait qu'en tête, comme la créatrice d'un rôle, l'étoile ne paraît dans une longue série de représentations que dans toutes les premières.
C'est intéressant qu'il utilise le mot de réflexion, qui est un terme pictural aussi à sa manière.
Oui, tout à fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que peint Elstir, notamment dans sa période Verdurin, quand il est tiche. Qu'est-ce qu'il peint ?
Le portrait de...
Des fleurs !
Ah, j'allais dire le portrait d'Odette.
Oui, le portrait d'Odette, Miss Sacripant. Le portrait d'Odette, c'est-à-dire la mère de Gilberte, la maîtresse de Swann et probablement la maîtresse d'Elstir. Il la peint et la maîtresse de l'oncle Adolphe que croise le narrateur dans son enfance. Odette, un personnage très important dans la recherche. Mais à l'époque où il la peint, elle est encore un peu garçon manqué. C'est un travesti, Odette. Quand il la peint, elle a cette sexualité indécise. Elle est celle dont on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. C'est Miss Sacripant, comme son nom l'indique. C'est une coquine. On est en 1873. Et c'est quoi ? C'est la femme en rose. C'est la rose. Que peint Elstir à cette époque-là ? Des fleurs. De quoi parle le narrateur quand il va dans l'atelier d'Elstir ? Comment s'appelle le livre à l'intérieur duquel le narrateur visite l'atelier d'Elstir ? Les jeunes filles en fleurs. Les jeunes filles sont comme des fleurs. Tout le livre à l'ombre des jeunes filles en fleurs est dicté par la peinture d'Elstir. Et quand Albertine essaie d'imiter le noble rythme du geste d'Elstir peignant, au fond, ce rythme-là est celui de l'ombre des jeunes filles en fleurs, ce volume si particulier de la recherche, dont le début est tellement ennuyeux, avec ces épisodes sur les Champs-Élysées, cette partie de bar avec Gilberte, qui est la fille d'Odette, et dont la deuxième partie à Balbec est tellement belle parce qu'elle est tout entière sous cette lumière, sous la lumière d'Elstir, sous la geste d'Elstir. Et alors, vous avez parlé d'intermédiaire, d'entremetteur, enfin bon, comme par hasard, c'est sur le chemin qui le conduit à l'atelier que le narrateur voit une jeune fille sur son vélo, la jeune fille à la bicyclette, qui jette dans sa direction un regard rapide. Et cette jeune fille, c'est Albertine.
Oui, et vous avez dit un passage, enfin vous avez dit que à l'ombre des jeunes filles était très, la deuxième partie était très belle. On peut quand même dire aussi que c'est très très drôle parce que quand vous avez dit, j'y ai fait attention à un moment, vous avez dit oui, Elstir présente Albertine, Elstir ne présente pas Albertine parce que franchement ça donne lieu à un moment très très drôle. Je ne sais pas si on a les moyens de l'entendre, si on a le temps.
On va l'entendre tout de suite.
Ça vaut le coup vraiment.
Le soir tombait, il fallut revenir. Je ramenais Elstir vers sa villa quand, tout d'un coup, tel Méphistophélès surgissant devant Faust, apparurent au bout de l'avenue comme une simple objectivation irréelle et diabolique du tempérament opposé au mien, de la vitalité quasi barbare et cruelle dont était si dépourvue ma faiblesse, mon excès de sensibilité douloureuse et d'intellectualité, quelques taches de l'essence impossible à confondre avec rien d'autre, quelques sporades de la bande zoophytique des jeunes filles, lesquelles avaient l'air de ne pas me voir, mais sans aucun doute n'en étaient pas moins en train de porter sur moi un jugement ironique. Sentant qu'il était inévitable que la rencontre entre elle et nous se produisît, et qu'Elstir allait m'appeler, je tournais le dos comme un baigneur qui va recevoir la lame. Je m'arrêtais net et, laissant mon illustre compagnon poursuivre son chemin, je restais en arrière, penché, comme si j'étais subitement intéressé par elle, vers la vitrine du marchand d'antiquités devant lequel nous passions en ce moment. Je n'étais pas fâché d'avoir l'air de pouvoir penser à autre chose qu'à ces jeunes filles, et je savais déjà obscurément que, quand Elstir m'appellerait pour me présenter, j'aurais la sorte de regard interrogateur qui décèle non la surprise, mais le désir d'avoir l'air surpris. Tant chacun est un mauvais acteur, ou le prochain un bon physiognomoniste, que j'irais même jusqu'à indiquer ma poitrine avec un doigt pour demander « c'est bien moi que vous appelez ?» et à courir vite, la tête courbée par l'obéissance et la docilité, le visage dissimulant froidement l'ennui d'être arraché à la contemplation de vieilles faïences pour être présenté à des personnes que je ne souhaitais pas de connaître. Cependant, je considérais la devanture en attendant le moment où mon nom, crié par Elstir, viendrait me frapper comme une balle attendue et inoffensive. La certitude de la présentation à ces jeunes filles avait eu pour résultat non seulement de me faire à leur égard jouer, mais éprouver l'indifférence. Désormais inévitable, le plaisir de les connaître fut comprimé, réduit, me parut plus petit que celui de causer avec Saint-Loup, de dîner avec ma grand-mère, de faire dans les environs des excursions que je regretterais d'être probablement, par le fait de relations avec des personnes qui devaient peu s'intéresser aux monuments historiques, contraint de négliger. D'ailleurs, ce qui diminuait le plaisir que j'allais avoir, ce n'était pas seulement l'imminence, mais l'incohérence de sa réalisation. Des lois aussi précises que celles de l'hydrostatique maintiennent la superposition des images que nous formons dans un ordre fixe que la proximité de l'événement bouleverse. Elstir allait m'appeler. Ce n'était pas du tout de cette façon que je m'étais souvent, sur la plage, dans ma chambre, figuré que je connaîtrais ces jeunes filles. Ce qui allait avoir lieu, c'était un autre événement auquel je n'étais pas préparé. Je n'y reconnaissais ni mon désir, ni son objet. Je regrettais presque d'être sorti avec Elstir. Mais surtout, la contraction du plaisir que j'avais auparavant cru avoir était due à la certitude que rien ne pouvait plus me l'enlever. Et il reprit, comme en vertu d'une force élastique, toute sa hauteur, quand il cessa de subir l'étreinte de cette certitude. Au moment où, m'étant décidé à tourner la tête, je vis Elstir arrêter quelques pas plus loin avec les jeunes filles, leur dire au revoir. La figure de celle qui était le plus près de lui, grosse et éclairée par ses regards, avait l'air d'un gâteau où on eût réservé de la place pour un peu de ciel. Ses yeux, même fixes, donnaient l'impression de la mobilité, comme il arrive par ces jours de grand vent où l'air, quoique invisible, laisse percevoir la vitesse avec laquelle il passe sur le fond de l'azur. Un instant, ses regards croisèrent les miens, comme ces ciels voyageurs des jours d'orage qui approchent d'une nuée moins rapide, la côtoient, la touchent, la dépassent. Mais ils ne se connaissent pas et s'en vont, loin de l'autre. Tels nos regards furent, un instant, face à face, ignorant chacun ce que le continent céleste qui était devant lui contenait de promesses et de menaces pour l'avenir. Au moment seulement où son regard passa exactement sous le mien, sans ralentir sa marche, il se voila légèrement. Ainsi, par une nuit claire, la lune, emportée par le vent, passe sous un nuage et voile un instant son éclat, puis reparaît bien vite. Mais déjà Elstir avait quitté les jeunes filles sans m'avoir appelé. Elles prirent une rue de traverse. Il vint vers moi. Tout était manqué.
Ne trouvez pas, Paola, que, après avoir entendu ce texte dont vous aviez dit, et à bon droit d'ailleurs, qu'il était très drôle, en fait, il est moins drôle que ça.
Oui, et d'ailleurs, ça me le rend encore plus drôle parce que je me suis demandé Si moi, j'avais trouvé ça drôle de rire à la cruauté, en fait. De...
Qu'est-ce qui est drôle dans l'histoire ? C'est que c'est un,
l'attitude
c'est
un, du narrateur.
L'attitude du narrateur qui fait le malin, qui sent qu'on va lui présenter les filles et déjà, il rêve, il brode, il sait bon, les filles vont lui être présentées, donc déjà, il s'en fout puisqu'il va les connaître, donc il est sorti de l'imaginaire pour entrer dans le réel, donc il s'apprête à être déçu, donc déjà, il a préparé sa pose, la façon de toucher sa cravate en disant « c'est moi que vous appelez », etc., etc. Et puis finalement, non, elles partent et tout est manqué. Mais c'est la préscience d'une tragédie qui est en jeu dans ce passage, et d'un malentendu. C'est un passage qui est plein d'avenir, c'est un passage qui est plein de morts. Et ce passage si drôle, où ce type est totalement ridicule, est un passage en vérité tragique, terrible. Trois petites remarques, Paola, puisqu'on arrive au terme de cette émission, à la faveur de ce texte. Trois petites remarques. La première, c'est que dans la grande famille des regards proustiens, il y a des centaines de regards dans la recherche, le croisement du regard du narrateur et d'Albertine, comme ces ciels voyageurs des jours d'orage qui approchent d'une nuée moins rapide, la côtoie, la touche, la dépasse, est un des plus beaux, incontestablement. Ce regard-là, ce moment-là, est un des plus beaux regards. Et ce visage, un peu rond, comme un gâteau où on aurait réservé, où on eût réservé une petite part de ciel, ce visage-là et ces regards qui se croisent composent un des tableaux les plus séduisants. Pas les plus séduisants, les plus frappants, les plus marquants de la recherche. C'est vraiment un ciel d'orage. La deuxième remarque, c'est que le plaisir de connaître est comprimé, réduit à l'instant où on a la certitude de connaître. Quand on est sûr de rencontrer quelqu'un, on en a moins le désir. Et on sent que le narrateur, alors encore adolescent, tout frais, tout con, ne peut pas penser autrement. La troisième remarque, et on finira là-dessus, c'est l'instant d'avant. C'est Proust a le génie de l'instant d'avant. Il a le génie de l'escalier qu'on monte. Vous comprenez, dans ce livre, Paola, où le temps passe à la vitesse de la mémoire, il arrive parfois qu'une fraction de seconde se déplie en quelques phrases gigantesques, parce qu'au temps de l'horloge a succédé la durée d'une émotion que un ralenti cinématographique, par exemple, ne parvient pas à exprimer. C'est rien n'est plus long que la fugitive beauté dans la recherche. L'instant d'avant, c'est l'infime infini. C'est le clin d'œil chargé d'avenir. Et ça, dans la recherche, c'est un dispositif très fréquent et c'est un dispositif dont la première occurrence, c'est Swann et Odette quand ils se donnent leur premier baiser, juste avant de faire Cattleya. Parce que Swann, au moment où le visage d'Odette tombe et il sait qu'ils vont s'embrasser, la durée qui sépare, vous savez, c'est comme Achille et la tortue, le temps que met le visage d'Odette à parcourir la distance pourtant infime qui la sépare, les lèvres d'Odette à parcourir la distance infime qui les sépare des lèvres de Swann, ce temps-là est un temps que Swann dilate à l'infini, au point d'ailleurs de retenir à deux mains le visage d'Odette pour laisser à sa pensée, dit le narrateur, le temps d'accourir et de poser avant ses lèvres, sur les mets bientôt vaincus, écoutez ça, ce regard avec lequel, un jour de départ, on voudrait emporter un paysage qu'on va quitter pour toujours. Tout finit quand tout commence. Et c'est l'essence même de la recherche. Tout finit quand tout commence. Or, qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est un livre qui commence juste après sa fin. Donc, ce passage, qui, en un premier sens, est hilarant, et je suis le premier à défendre l'idée que la recherche est un livre drôle, n'est pas si drôle. N'est pas si drôle. C'est un des grands moments tragiques de la recherche, c'est un moment infime et grâce soit rendue à un écrivain de savoir restituer à ce point les pensées d'un jeune homme si bête, si jeune, si ingénu et déjà si intuitif.
Merci Paola, merci à tous. Voilà par exemple ce qu'on pouvait dire d'Elstir en si peu de temps. Un grand merci à Luc-Jean Reynaud, bien sûr, notre réalisateur, à Georges Kless à la lecture et Michel Mestre à la technique. Cette émission, comme toutes les autres, vous pouvez la retrouver sur Internet à la page du Gai Savoir où vous attendent bibliographie, téléchargement et l'écoute en ligne. C'est de Pascal, figurez-vous, que nous parlerons la semaine prochaine, chers auditeurs, mais d'un Pascal sans Dieu, de Pascal tout nu en un sens, de Pascal séparément de toute apologie de la religion chrétienne, bref, du philosophe de la misère de l'homme, du contempteur des demi-habiles et du penseur de l'entre-deux. une émission la semaine prochaine en compagnie de Carole Beffa qui improvisera au piano et une émission en partenariat avec nos amis de Philosophie Magazine. D'ici là, si la philosophie vous manque évidemment, écoutez et téléchargez les nouveaux chemins de la connaissance d'Adèle Van Rett qui tous les jours vous donne rendez-vous de 10h à 11h du lundi au vendredi sur France Culture. France Culture que vous écoutez, il est 17h et dans quelques instants, Ali Rebbi est du côté de chez soi.